Focus musique au centre.
Doucement.
Diabolus in musica.
Ensemble perspective.
La rêveuse.
Marianne Piketty.
Ensemble Jacques Roder.
Les folies françaises.
La rêveuse.
Ensemble consonance.
Ensemble cairn.
Bienvenue à tous sur Radio Campus pour la première de Focus Musique au Centre, une série de 10 émissions qui vous permettront le dimanche matin de rencontrer 10 ensembles musicaux de la région Centre. À E10, ces ensembles couvrent la musique du Moyen-Âge à nos jours, mais de quelle musique parle-t-on ? C'est ce que nous allons vous faire découvrir dans Focus Musique au Centre. Et pour commencer, nous remontons dans le temps avec la carte blanche de notre premier ensemble qui porte un nom à faire frémir, Diabolus in Musica. Le grand rendez-vous. Bonjour Antoine Gerber.
Bonjour.
Alors vous êtes le directeur artistique et fondateur de l'ensemble Diabolus in Musica, mais vous n'avez pas l'air si diabolique que ça à première vue. Alors qu'est-ce que c'est que ce diable dans la musique qui est le nom de votre ensemble ?
Alors c'est une expression que les premiers théoriciens, les premières personnes au cours du Moyen-Âge à s'être exprimées sur ce qu'était la musique, ont pris cette expression pour désigner en fait un intervalle entre deux notes qui était une dissonance terrible. Le triton, trois tons entre fa et si, c'est la quarte augmentée, donc c'est entre la quarte et la quinte qui sont deux très beaux intervalles, très purs, très consonants. Au milieu, il y a cette dissonance horrible qu'il faut éviter dans une musique à deux parties, sinon pour eux c'est comme si le diable s'insérait dans la musique et voilà, c'est l'horreur absolue à éviter. Évidemment, on trouve beaucoup cet intervalle au Moyen-Âge comme à toutes les époques.
Et alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom qui est quand même assez provocateur d'une certaine façon ?
Eh bien pour provoquer, comme vous dites. Et puis c'était une expression qui sonnait assez bien, assez rigolote. Et voilà, on s'est lancé avec ce nom-là. Il y a 30 ans exactement.
Il y a 30 ans. Et en 30 ans, il y a eu énormément de musique à découvrir. On va en écouter tout de suite un extrait.
Oh.
Antoine Gerber, parlez-nous un petit peu de ce disque qui, je crois, fait partie des premiers, si ce n'est le premier de vos enregistrements.
Ça n'est pas le premier, mais c'est un des tout premiers. C'est le troisième, je crois, dans notre histoire. Et c'est le premier qui s'est fait remarquer en plus, donc enregistré en 97 à l'abbaye de Fontevraud. Je m'en souviens très, très bien.
Ah oui.
Mais c'est un disque très important parce que c'était sur vraiment du grand répertoire, les premières grandes polyphonies à trois parties, quatre parties, qu'on appelle l'école de Notre-Dame dans notre histoire. C'est vraiment les débuts de la grande musique avec des compositeurs qui ont une pensée vraiment très, très structurée, qui développent des œuvres de très longue durée pour la première fois. À trois parties, à quatre parties, vraiment, ce n'est plus...
Quatre parties, trois parties, ce sont des voix.
Oui, 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 et toujours des voix solistes à l'époque, même si c'est dans la cathédrale Notre-Dame que ça se passe, en l'occurrence, c'est vraiment conçu pour des chanteurs solistes. Et on n'est plus dans des balbutiements, mais dans les débuts de la grande musique, pour moi, et de la notion de compositeur, avec d'ailleurs les premiers noms de compositeurs qui nous sont restés dans l'histoire, les fameux Léonin et Perrotin. Donc c'est du grand répertoire, et l'ensemble s'est fait remarquer, donc il y a très longtemps, par ce disque qui est très important dans notre carrière. Ouais.
Alors, ce disque, c'est quelle période de l'histoire de la musique? C'est le XIIIe siècle?
On est au tout début du XIIIe siècle, même à la fin du XIIe siècle. Donc, le premier nom de compositeur Perrotin, il est attesté en 1198 dans les archives. Il était déjà quelqu'un d'important. C'est fin XIIe, début XIIIe siècle. On sort de la monodie, du chant grégorien qu'on agrémente, qu'on augmente avec une deuxième, une troisième, une quatrième voix. Déjà de la grande musique en ce début de XIIIe siècle.
Qui se complexifie. Alors c'était quand même audacieux de s'attaquer au répertoire du Moyen-Âge, Antoine, parce que déjà ça représente comme une période extrêmement longue. Il y a combien de siècles qui
Alors,
couvrent le Moyen-Âge?
Le Moyen-Âge dure 10 siècles officiellement, hein, puisque les historiens...
On a le temps de changer en 10 siècles.
...ont découpé l'histoire comme ça, mais c'est évidemment, ce n'est pas un continent, c'est plusieurs continents à découvrir, parce que les choses ne se passent pas du tout de façon linéaire, de façon cohérente, homogène, d'un pays à l'autre et d'un siècle à l'autre. Et une succession d'événements historiques, d'événements artistiques, de styles qui se développent de façon extrêmement complexe et contrastée. Donc nous, on s'est focalisé sur la musique française parce que en France se développent les principaux courants musicaux tout au long de ce Moyen-Âge, les principales innovations, les débuts de la musique profane, des chansons profanes avec les troubadours trouvères, les débuts de la polyphonie à deux voix, trois voix, quatre voix, tout ça se passe en France pour des raisons très très complexes et très documentées. Maintenant, c'est pas qu'on est plus intelligent et plus fort que les autres,
mais
c'est effectivement, ce sont les conditions sociales, la féodalité, la naissance de la vie dans les artistiques, dans les cours, qui ont fait que ça se développe principalement dans le sud de la France d'ailleurs, avant de gagner d'autres régions de ce qu'on appelle la France actuellement, et puis de l'Europe petit à petit.
Alors Antoine Gerber, pourquoi est-ce qu'un homme du XXe siècle s'intéresse comme ça à ces musiques si anciennes? Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans?
Ça, c'est un peu mystérieux, un peu magique. Moi, je me demande si ce n'est pas les musiques du Moyen-Âge qui sont intéressées à moi. Je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait. Mais en tout cas, on est tous faits de Moyen-Âge, du passé. On est tous faits de ce qu'ont fait nos ancêtres par le passé. On avait tous des ancêtres au XIIIe siècle, sinon on ne serait pas là. Pourquoi ça me pénètre et ça m'interpelle peut-être davantage que d'autres personnes, ça c'est assez mystérieux. Donc sans tomber dans le mysticisme, moi j'ai remarqué, donc moi je chantais dans des chorales qui interprètent absolument tous les répertoires, sauf le Moyen-Âge, on peut pratiquement dire. Et puis un jour j'ai suivi un stage de chant grégorien, j'ai rencontré des gens qui s'intéressait à ce répertoire. Et ça m'a tout de suite, mais vraiment tout de suite pris par le petit doigt dans l'engrenage. Et je n'ai plus quitté ça. Tout de suite, ça m'a parlé. Les notations, les facsimilés, les manuscrits, la manière de chanter de grands chanteurs. J'ai rencontré Dominique Vélard à cette époque-là. Ça m'a tout de suite parlé. Je me suis senti absolument chez moi. Mais plus de 30 ans après, je ne sais pas pourquoi.
Alors, on va se poser la question de la façon dont on retrouve une manière de faire après cette petite pièce traditionnelle irlandaise que vous avez choisie.
Tis many time.
Splendide Voice Squad, un ensemble donc irlandais qui chantait cette chanson traditionnelle. On peut s'interroger justement sur comment retrouve-t-on la façon de chanter au Moyen-Âge, et est-ce que justement ces chansons traditionnelles ne sont pas l'une des pistes que l'on peut explorer ?
Si, bien sûr, faut écouter toutes les traditions vocales du monde entier, c'est une grande leçon. Là, on vient d'entendre trois hommes. Une voix de basse, une voix de baryton, un ténor, c'est-à-dire exactement ce que vous avez entendu auparavant,
exactement,
le paternoster de Diabolus in Musica, c'est une basse, un baryton, un ténor. Donc il n'y a pas 250 manières de faire, c'est de l'écoute. En plus, c'est un peu le même type d'intervalle. D'ailleurs, ces trois chanteurs irlandais, c'est vraiment une leçon, donc c'est pas toujours très juste, et quelquefois il y en a un qui entonne juste avant. C'est pas parfait, mais quelle leçon pour l'écoute interne, pour la cohésion de l'ensemble, c'est magnifique. C'est vraiment une manière de retrouver nos manières traditionnelles à nous, très anciennes.
Alors j'imagine, oui, l'écoute de ce répertoire traditionnel de par le monde, mais il y a aussi certainement, Antoine Gerber, un travail sur des écrits. Parce que c'est aussi une musique écrite, cette musique du Moyen-Âge,
oui,
plus ou
sûr.
Moins.
On part toujours des sources manuscrites, évidemment, c'est le travail de base. On part de musiques qui ont effectivement été composées et ont laissé des traces manuscrites. Donc il faut d'abord commencer par l'étude des notations. Mais pour retrouver la manière de faire, puisque nous ne sommes pas musicologues, nous sommes interprètes, donc on s'appuie sur des travaux musicologiques, mais après il faut interpréter. Donc il faut se renseigner énormément sur les effectifs. Donc les musiques anciennes ont été redécouvertes petit à petit et réinterprétées dans les années 50, 60, 70 avec beaucoup de ce qu'on nomme maintenant des erreurs entre guillemets, non pas que les gens aient été idiots ou faisaient exprès de se tromper,
mais c'était une véritable aventure.
Oui,
en
c'est
fait.
Ça. Ouais. Il fallait tout redécouvrir. Mmh. Les connaissances musicologiques nous ont apprises qui chantait, comment, est-ce que les hommes chantaient avec les femmes, non. Y avait-il des instruments beaucoup moins que ce qu'on a fait dans les années 60 où c'était le folk qui l'emportait et on faisait des véritables orchestres d'instruments médiévaux qui, dans la réalité, n'ont jamais existé. Donc voilà, c'est tout ça qu'il fallait redécouvrir, mais c'est comme un travail d'enquête tout à fait passionnant. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est, on aurait dû commencer par ça, c'est d'essayer de retrouver ces conditions d'interprétation, telles que essayer de retrouver comment on chantait, avec quels effectifs et de quelle manière, au Moyen-Âge, on chantait ces musiques-là. Parce qu'on peut faire différemment.
Oui, bien sûr. Je trouve que c'est une vocalité qui est très liée à une architecture également.
Oui, tout à fait.
Beaucoup de chants sacrés, donc il y a toutes ces voûtes que tout à coup la musique fait vivre.
Ce sont des musiques qui ont une fonction, qui ont un contexte qu'on ne chantait pas. Ce ne sont pas des musiques de concert qu'on chantait n'importe où, n'importe comment. Donc elles sont liées à des lieux, à des architectures, à des acoustiques.
Un espace. Oui,
un espace vraiment qui est, et on gagne beaucoup à retrouver ces conditions d'interprétation. Les musiques prennent un sens, prennent une dimension incroyable.
Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a un vrai jeu, je trouve, entre les chanteurs et les espaces dans lesquels ils se produisent.
Les chanteurs sont très très souples et doivent s'adapter à chaque, parce qu'il n'y a pas deux églises qui sonnent pareilles.
Ah, oui.
Et c'est une très grande qualité des chanteurs spécialisés en musique ancienne, c'est de s'adapter à chaque acoustique.
Alors maintenant, on va passer à un de vos coups de cœur, et vous m'avez même avoué que vous l'aviez emporté parmi trois autres disques ou quatre autres disques comme une espèce de Madeleine sur une île déserte.
Exactement.
Zuruni
C'était la chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani qui interprétait ce tube, on peut le dire, de la chanteuse Férouz et de Saïd Darwish, un tube qui s'appelle Zorouni. C'est vrai que c'est magnifique cette ornementation.
C'est une voix stupéfiante de beauté, de technique, mais la technique disparaît au profit de l'émotion pour un texte amoureux qui est assez stupéfiant aussi et qui pourrait être un texte de troubadour.
Exactement, j'allais vous dire, oui.
C'est vraiment l'homme qui se plaint que la femme ne le regarde pas, le dédaigne, voire lui est hostile. L'hostilité dans la poésie arabe, c'est en fait de l'amour déguisé. Voilà, tout peut se transformer, se retourner. C'est exactement le cas dans la poésie des troubadours aussi.
Alors Antoine Gerber, ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de Diabolus in Musica ?
C'est la 30e année.
Voilà. Que vous allez fêter, j'imagine.
Donc on va fêter, j'espère, hein, malgré toutes les, oui. Voilà, toutes les inconvénients de la période passée, qu'on va fêter dignement. C'est aussi ma dernière à la tête
oui.
de l'ensemble. Mais voilà, c'est une double motivation pour fêter cette année.
Alors, qui va vous remplacer, Antoine Gerber ?
Alors, c'est Nicolas Sansarla, qui est un magnifique musicien, très polyvalent, multi-instrumentiste, mais qui, au-delà de ses qualités d'interprète, est un très grand musicologue aussi, qui connaît extrêmement bien les notations. Et donc, il va mener l'ensemble d'une manière différente, avec des programmes que moi-même, je n'aurais pas abordés. Et donc, c'est vraiment passionnant, la période qui s'ouvre pour Diabolus in Musica, malgré mon départ.
Il y a encore des choses à découvrir, j'imagine.
Ah oui, c'est comme je le disais, c'est plusieurs continents, c'est vraiment inépuisable. Et le premier programme de Nicolas sera un programme sur les chansonniers du Val-de-Loire au XVe siècle, puisqu'avec la présence de la cour de France à Tours et dans toute la vallée de la Loire, il y a des traces musicales passionnantes que je n'ai pas eu le temps d'aborder moi-même.
Alors je vous propose qu'on boucle un peu la boucle en revenant à l'Ave Regina, qui est un des derniers disques, ou le dernier disque que l'ensemble a enregistré.
C'est notre dernier disque
avec vous.
Qu'on a enregistré en plein Covid et qui est sorti au mois d'avril.
Thank you.
Antoine, vous partez sans vraiment partir puisque vous dirigez quand même toujours un festival dans la région.
Bien sûr, les Méridiennes, chaque début mois de juillet, festival très important pour la vie culturelle tourangelle, salle Hockey Games, ça je continue avec un grand bonheur.
Et alors c'est un répertoire qui n'est pas tout à fait celui de Diabolus.
Non, c'est un festival ouvert à toutes les musiques savantes avec une grande présence des musiques du monde, comme les extraits que j'ai passés aujourd'hui le montrent, je suis un grand fan.
Alors on attend le mois de juillet avec impatience. Le grand invité. Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Allaire pour avoir dans cette émission non seulement la voix de ceux qui font la musique, mais aussi celle de ceux qui l'écoutent. Alors certains d'entre vous connaissent certainement la plume de Philippe Allaire si vous lisez La Nouvelle République, car il y est critique musical. Et puis d'autres se souviendront peut-être de leur professeur de musique. Alors je crois que Philippe Allaire, la musique occupe une place assez importante dans votre existence puisque vous l'avez enseignée et maintenant vous la louez.
Oui, elle occupe une place importante comme l'art en général. Et puis le bonheur de transmettre, de dire les choses. Que ce soit à des élèves, à des amis, pour les inciter à aller au concert et à s'ouvrir l'esprit.
Qu'est-ce qu'on leur dit ?
On leur dit ce qu'on dit à un enfant de qui ne veut pas manger ses haricots verts.
Goûte. Et alors, qu'est-ce qui, selon vous, procure un plaisir supplémentaire au fait d'aller au concert? Parce que c'est ça que vous défendez un petit peu quand même, c'est ce plaisir quand même assez unique du concert.
C'est tout ce qui fait un concert, c'est un lieu, c'est aussi cette proximité de ceux qui font la musique. Donc je suis une obsession sur la nourriture, mais les haricots verts ne poussent pas dans les cagettes. Il est bon de temps en temps d'aller les cueillir au jardin pour voir d'où ils viennent. Et quand on est confronté aux interprètes, quand on entend Diabolus in Musica, quand on entend un orchestre symphonique, et que tout d'un coup on se dit d'où vient ce son, qui fait ça ? Une espèce de curiosité de l'oreille en face de ces gens qui produisent là devant vous, qui sortent du silence des œuvres musicales, et c'est assez extraordinaire.
Puis il y a le geste.
Alors, il y a ça, il y a le lieu, et puis il y a le partage avec d'autres, ce qui fait qu'on va encore au cinéma alors qu'on a des télévisions.
Oui.
C'est partagé, toujours, toujours.
Et la présence du public est quelque chose qui transforme un petit peu le rapport qu'on a à l'expérience musicale, en fait.
Oui, je crois vraiment que le public est important, et la période que nous avons traversée a été dure pour les ensembles. Certains ont continué à travailler, je regarde Antoine, mais tout le monde s'est rendu compte à quel point on avait besoin de cette communion, besoin de se retrouver, et combien les artistes avaient besoin du public, et combien, ça va de soi, le public avait besoin des artistes. Combien de fois, dans la reprise de la fin de l'année dernière, je voyais sur scène les artistes dire merci, et le public dire merci, mais avec une sincérité qui était assez, assez touchante et qui était vraiment authentique.
Alors vous avez choisi comme premier extrait musical un ensemble aussi de la région, l'ensemble Jacques Moderne. Ce sont des concerts auxquels vous assistez assez régulièrement, et on va donc avoir le plaisir de partager tous les quatre un Scarlatti.
Thank you.
C'était donc le Tédéum de Scarlatti par l'ensemble Jacques Moderne. Votre choix, Philippe Allaire. Comment est-ce qu'on fait partager ce goût que vous avez pour la musique? Parce que ce n'est pas une musique en particulier, ce sont les musiques qui vous séduisent. Ou alors vous avez un goût tout à fait précis.
Non, c'est assez large. C'est assez large.
J'avais cru comprendre, oui.
C'est un curieux mélange de capacité à fermer les yeux et à se taire, et d'ouvrir son esprit. Et pour ouvrir son esprit, quelques clés sont des fois nécessaires pour inscrire dans l'histoire de la musique, dans les rapports aux autres arts, une œuvre qu'on entend. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il n'y a pas d'antinomie entre l'émotion et les connaissances. L'un féconde l'autre.
Nous sommes bien d'accord. Oui, elles se nourrissent l'une l'autre. Oui, tout à fait. Et vous ne pensez pas qu'il y a certains répertoires, comme par exemple le répertoire médiéval, qui puissent être un petit peu lointains des publics de maintenant?
Je sais, pour avoir fréquenté pendant trop longtemps, très longtemps, des collégiens, qu'il n'y a absolument aucun répertoire qui ne soit pas accessible. Il suffit simplement d'ouvrir à un moment donné une porte et de laisser jaillir l'émotion, puis de mettre des mots sur cette émotion, puis de mettre des connaissances sur derrière, de réécouter, de revenir. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que vous avez parfois des surprises quand vous faites entendre. Ils sont des ténèbres de Couperin, par exemple, à des classes de quatrième, et qu'ils ont, à un moment donné, touché dans le silence de leur cœur quelque chose, alors là, êtes sûr qu'ils vous le réclament à chaque cours, pour retrouver cette expérience. C'est la même chose quand on fait entendre... J'ai vu des élèves danser sur des pièces de Perrotin.
Danser sur des pièces de Perrotin,
ben, pouvez pas c'est... rester en place. Comment voulez-vous rester en place? Comment voulez-vous rester en place?
Oui, ça fait plaisir à entendre. Nous-mêmes, on passe dans des collèges et dans des lycées très régulièrement depuis 30 ans. Et effectivement, il n'y a pas d'a priori. Il faut savoir toucher les élèves, comme vous dites. On n'est pas forcément... C'est pas parce qu'on est musicien qu'on sait comment faire aimer ces musiques. Mais le principal problème, c'est de les mettre en contact avec ces musiques. Et le monde actuel ne le favorise pas spécialement.
Comme le renard dans Le Petit Prince, l'oreille a besoin d'être apprivoisée.
Tout à fait. Exactement, tout à fait.
Plais-vous ouïr de grandes batailles et de forts épouses? Venez l'armée du trésor Azimours, on y prit guerre vers lui notre amour. Mais Daguilion la privait lui fort sourd, tant qu'il aussi l'argent par grand honneur. Souvent combattit la jambaille dure, si perdit de ses hommes les médiours. Et soulevez-vous d'Avivien le trou, pour qu'il ou tout dans un corps grand boulot. Une vie à l'épre, où elle va commencer la chanson d'Iliam.
C'est Antoine Gerber qui, accompagné du Rebec, je crois, oui, interprétait ce récit chanté. Philippe Allaire.
Oui, je l'ai choisi parce que c'était une occasion d'entendre la voix d'Antoine. Et puis parce que c'est une musique qui est à l'un des bouts de la chaîne du répertoire de Diabolus in Musica. Ces chansons de troubadours, trouvères, jongleurs. Et puis aussi parce que ce sont des œuvres assez étonnantes, une économie de moyens extraordinaire. Et puis, derrière, hein, tout un ensemble de choses qui peuvent naître. Je vous parliais de transmettre aux enfants. Si je voulais mettre cette pièce en comparaison d'une autre, je mettrais quoi en face ? Ce qu'a pu devenir la musique de ceux qui racontent des histoires, mais je serais inévitablement obligé d'aller chercher un griot. C'est-à-dire que tout d'un coup, du Moyen-Âge, on ouvre sur autre chose. Bon. Si je vais leur faire visiter un château médiéval, je mettrais ça, avec cette magie qu'a cette musique, de faire parler la pierre qui est là, fièrement, le son s'est éteint, et là, tout d'un coup, il revient.
Mais c'est amusant que vous parliez de la pierre, parce que pour moi, c'est récit chanté très populaire. Hein. On en parlait, Antoine Gerber, c'est finalement, ça se chantait dehors, sur les places de village.
Oui, c'est un des rares répertoires dont on sait que les foules adoraient et qui pouvait être chanté en extérieur, alors que ça dure des milliers de vers, ça peut durer plusieurs heures. On a des récits qui nous racontent comment c'était. Ça pouvait être coupé en plusieurs parties, mais le public attendait la suite. C'était vraiment extrêmement populaire.
Mais ça me fait penser un peu, moi, à ces récits sculptés dans la pierre, dans les églises médiévales ou après, qui racontent des choses, mais qui sont accessibles à tous, en fait. C'est des récits pour tous.
Et un jour, tout cela, beaucoup, beaucoup plus tard, deviendra l'opéra. Mais bien beaucoup plus
mais
tard.
Mais c'est une autre histoire, comme on dit toujours. Alors, vous vouliez absolument, Philippe Allard, que l'on entende le Requiem de Kegem. Alors, pourquoi ? Ça va être votre dernière musique.
Parce que ces grands. J'ai choisi le Kyrie, ces grands piliers sonores sont une véritable cathédrale de son, avec en plus quelques rugosités d'harmonie qui sont délectables. Voilà. C'est une visite. En fait, on ne l'écoute pas, on le visite, le Requiem de Kegem.
C'était donc le Kyrie du Requiem d'Okegem par l'ensemble Diabolus in Musica. Merci à vous, Philippe Allaire. Le grand invité. Antoine Gerber, si vous vouliez bien nous présenter votre invité, nous expliquer pourquoi vous l'avez invité.
Parce que c'est un ami d'abord, ce qui est une raison suffisante. C'est Thierry Machuel, le grand compositeur tourangeau, avec qui j'ai eu le grand plaisir et l'honneur de collaborer cette année pour une reprise très particulière de la messe de Machaut, qui est vraiment une œuvre phare du Moyen-Âge et que je voulais reprendre au cours de cette dernière année pour moi, mais en passant commande à Thierry d'œuvres. Et l'intervention de Thierry est allée bien au-delà, comme il va nous l'expliquer. Et Thierry a créé une œuvre singulière qui s'appelle Notre-Dame des Flammes.
Pourquoi vous avez accepté ce projet, Thierry Machuel ?
D'abord par amitié.
Oui, on a bien compris ça.
On se connaissait avant la mise en route de ce projet. C'était vraiment un honneur de me voir confier ce projet de création avec Diabolus, qui semble merveilleux. Et puis ensuite, je dois dire que la collaboration avec Antoine s'est passée de manière très 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 fluide. Donc on est allé très très vite vers cette idée d'un spectacle quasiment, c'est-à-dire de quelque chose qui fasse rentrer les différentes parties de la messe de Machaut dans une architecture un petit peu plus grande. Et comme je l'ai proposé à Antoine, de faire en sorte que cette allusion à l'incendie de Notre-Dame de Paris devienne une sorte d'incendie d'une œuvre patrimoniale qui, dans l'histoire de la musique occidentale, a une place tout à fait à part.
En gros, vous avez brûlé la messe.
Non, quand même pas, mais...
Il y a mis le feu.
Il y a une guitare électrique, et la guitare électrique avec toute sa puissance, ses effets de distorsion, cette capacité lyrique absolument exceptionnelle, apporte quelque chose qui est de l'ordre de la transposition. C'est comme si on changeait un petit peu d'espace lorsque on entrait dans cette messe. C'est aussi... J'avais envie d'en faire un objet profane pour la rendre plus accessible. Et c'est pourquoi j'ai rajouté aussi des chansons sur des textes de Louise Labbé qui datent du XVIe siècle, qui ne sont donc pas du XIVe, mais à vrai dire, on est plein d'anachronismes là dans cette démarche que nous avons élaborée ensemble. La guitare électrique est plutôt du XXe siècle. Il y a ces textes du XVIe. Et puis, j'ai eu envie aussi de faire rentrer dans l'équipe la chanteuse Marthe Vassallo, qui est connue pour son implication dans le chant traditionnel breton.
Oh,
Donc ça, c'est un premier extrait de cette Notre-Dame des Flammes, où le nom de Thierry Machuel est associé à celui de Machaut. Comment est-ce qu'on travaille autour d'une œuvre qui est patrimoniale, justement? Comment est-ce qu'on la brûle sans la brûler, en fait? Comment est-ce qu'on la revivifie, peut-être? Je ne sais pas si c'est ce mot que je dois employer, Antoine Gerber.
Oui, je crois que Machaut n'avait pas besoin d'être revivifié, mais par contre, c'est Thierry qui en a fait une œuvre complète. Donc Thierry est allé presque au-delà de ce que je souhaitais. Et c'est ce que je trouve extraordinaire dans cette collaboration, c'est en fait qu'il m'a pris par la main, il m'a emmené là où je ne serais pas allé. Et ça, c'est vraiment une grande expérience pour moi.
C'est-à-dire, vous ne seriez pas allé jusqu'où ?
Je ne serais pas allé jusqu'à rajouter une cinquième voix, comme Thierry l'a fait, par exemple, en rajoutant la voix de Marthe Vassallo, que je connaissais, que c'est une connaissance commune et qui est une voix extraordinaire du chant traditionnel breton. C'est la plus belle voix de Bretagne actuellement. Mais voilà, toucher à ce répertoire m'aurait vraiment beaucoup brusqué il y a quelques années. Et donc, je suis vraiment très heureux d'avoir franchi ce pas grâce à Thierry.
Oui, merci Antoine, je crois que j'ai pensé aussi beaucoup à ce que m'ont transmis mes maîtres, professeurs de contrepoint ou d'harmonie au Conservatoire de Paris.
Vous pensez à qui ?
Je pense à Alain Bernot ou Jean-Claude Henry. C'est des études qui m'ont passionné et en même temps, après cela, je n'ai pas su tout de suite comment réemployer ces outils qu'on m'avait enseignés. C'est-à-dire que je trouvais ces études parfois un petit peu théoriques. On ne les avait pas appliquées réellement à du chant dans ce qu'il a de charnel ou de littéraire. Hein, on faisait des exercices en superposant des voix, mais on ne mettait pas de texte et souvent on ne les chantait pas. Ou quand on les chantait nous-mêmes à l'intérieur d'une classe de contrepoint, le résultat était assez, assez fantaisiste. Or, moi j'avais depuis toujours cette passion du chant choral, j'ai chanté très jeune dans la chorale de mon père, j'ai aussi été biberonné au chant grégorien, et donc pour moi le contrepoint c'était d'abord quelque chose de très charnel, c'est pas seulement des choses que l'on écrit, ce sont des personnes qui sont ensemble dans la même pièce pour chanter des choses différentes, complémentaires, pour improviser aussi même parfois, et pour aussi prendre racine dans des textes, dans des paroles qui ne sont pas les nôtres et qui nous nourrissent. Et donc, comme j'ai toujours accordé beaucoup d'importance au texte dans ma démarche de compositeur, le fait d'aller vers ces déplorations de Louise Labbé qui sont sur le manque d'amour et sur quelque chose que j'ai choisi comme étant aux antipodes de l'incendie. C'est-à-dire, moi, je le sens quand même plus comme je les ai choisis parce qu'on ressent la brûlure du froid. Le froid brûle aussi. C'est comme si on posait la main
froideur.
C'est plus que ça. On pose la main sur une plaque de gel et ça brûle la peau. C'est un peu cette impression-là qu'on a dans ces textes absolument magnifiques et toujours d'une modernité stupéfiante. Et ces textes de Louise Labbé me semblent entrer, non pas en compétition avec la musique de Machaut, mais
en résonance.
Pour moi, il se passe quelque chose. Et une fois que j'ai eu trouvé ces textes, j'ai cherché longtemps. Et puis, à un moment donné, ça a fait tilt. Et j'ai eu le sentiment que ces textes-là, à ces endroits-là, avaient une raison d'être.
Et pourquoi cette voix de la chanteuse, une chanteuse qui n'appartient ni au monde de l'univers médiéval, ni au monde du chant choral, a priori ou...
Il m'a semblé que Marthe Vassallo avait ce pouvoir de passeuse, de quelqu'un qui se met entre plusieurs mondes, plusieurs styles, plusieurs cultures, et dont la voix parle à tout le monde.
Regarde et tournez.
L'extrait qu'on vient d'entendre, Thierry Machuel, se situe presque à la fin de cette pièce que vous avez composée en lien avec Diabolus in Musica.
Oui, nous avons franchi un certain nombre d'étapes dans Notre-Dame des Flammes, dont une qui illustre les propos d'Antoine tout à l'heure, à la fois ses réticences et puis son envie d'aller vers une forme différente et de s'ouvrir à quelque chose de singulier.